Ouais, bonjour, on est content d'être là. Vous m'excusez parce que déjà j'ai le problème de français, mais j'ai aussi aujourd'hui un problème de gorge. Mais bon, j'espère que ça va aller. Mais c'est un plaisir d'être là. On est venu pour manger, bien sûr, la nourriture belge. Et jusqu'à là, on a eu du pizza, de ravioli et de tiramisu. Alors, je pense qu'il y a les Belges quand même. Mais voilà, on a eu la gastronomie italienne qui est super. Mais bon, Jacques m'a demandé de dire quelque chose sur mon témoignage. Je suis anglais et je viens d'une famille près de Londres. C'est là où on vivait et je pas du tout chrétien, rien. Au début de ma vie, je connaissais rien de l'Évangile. C'est plutôt ma mère. Était, je veux dire, respect, parce qu'elle était quand même une mère bien pour moi, mais c'était quand même une femme qui immorale. Et mon père, moi, à l'âge de 12 ans, il y a divorce. Mon père est devenu alcoolique. Ma mère, elle est décédée maintenant à 44 ans d'un cancer. Et mon père, de l'alcool à l'âge de, je pense, il avait 56 ans, à peu près là. Alors, mais c'était pas rien de chrétien, hein. C'était vraiment une maison dans un sens en catastrophe. Mais alors, à 16 ans, j'allais 18, 10, 16, 18, 17 ans, je suis allé vivre avec les amis, 5 ans dans une maison, on faisait que la fête tout le temps, on buvait, c'était la belle vie, j'aimais ça, mais c'était pas bien, hein. c'était pas bien du tout. Et la première fois que j'ai rencontré une chrétienne, j'étais même pas au courant. C'était 6 mois avant ma conversion. Et je travaillais dans un autre endroit pour 6 mois. Il y avait une fille chrétienne là. Et franchement, moi, je savais même pas. Elle essaie, je crois, de me dire quelque chose une fois. Et j'ai dit, je suis évolutionniste. Mais je savais même pas de quoi je parlais. Mais je savais qu'il fallait sortir ça pour fermer la bouche des chrétiens. Et franchement, j'étais méchant, j'étais un persécuteur. Et je crois que j'ai abîmé vraiment pendant longtemps la vie spirituelle de cette fille. J'étais méchant, vraiment. Je savais comment c'est avec les hommes. J'ai tout fait pour compromettre cette fille. Et je me suis bien moqué d'elle devant les autres hommes, derrière son dos. Et elle n'a pas fait les choses bien en tant que chrétienne. Hein. Alors, je suis pas fier de ça, c'est la honte. Mais j'ai rien compris de l'Évangile. Mais 6 mois plus tard, dans un autre endroit, j'ai travaillé encore à côté de quelqu'un, et cette personne s'est convertie. Et j'ai vu, bon, au début, je me suis moqué d'elle, je trouvais ça ridicule, je me suis dit, ça va pas durer, qu'est-ce que c'est cette histoire de religion? Mais j'ai vu de jour en jour quelqu'un qui était changé. Les choses que j'attendais pas. Elle avait un copain qui était en prison. Il était violent. Et avant, à chaque fois le téléphone sonnait, elle courait au téléphone parce que c'était peut-être lui. Après sa conversion, toute son affection était changée vers le Seigneur. C'était vraiment dramatique à voir. Et bon, je me suis fâché. On n'allait plus pouvoir ensemble en tant que à midi. On était un groupe qui allait. Alors j'ai dit, ah bon, tu restes pour réciter mon père. Alors je trouvais ça stupide. Mais à travers, bon, c'était, j'ai pas le temps de le raconter, mais à travers un accident, et moi j'ai eu un accident, j'ai couru après. Tout le monde se moquait de moi au travail, sauf elle qui a dit, je vais prier pour toi, il faut aller régler ce que tu as fait. Parce que moi je me suis enfui. Alors, je suis allé, je croyais pas, mais en même temps, quand quelqu'un dit, je vais prier pour toi, je trouve superstition, je me suis dit, j'aime pas ça, qu'est-ce qui se passe là? Mais tout s'est mis en règle. Alors, j'étais athée, mais je me suis dit, c'est vrai ou non? Et le vendredi, le Seigneur avait bien préparé les choses. Le vendredi, il avait une réunion d'évangélisation. Ils m'ont invité, c'était un groupe de jeunes dans la ville. Je suis allé, le film était nul, je trouvais ça vraiment nul. Je venais du monde, je voyais il y avait l'ours, il y avait une grand-mère et quelque chose, et à la fin, tout le monde était chrétien. Moi, c'était stupide. Mais, après, il y a un homme qui est là, il a dit, je suis chrétien, il a parlé des trois choses dans sa vie. Il est devenu missionnaire, il s'est marié, c'était le grand choix de sa vie, mais le plus important, il s'est donné à Jésus-Christ, sa vie a été transformée. Et j'avais vu ça moi-même au travail, et je me suis dit quand même, mais s'il y a quelque chose, et je commençais à partir de là, d'aller rendre visite chez les chrétiens, discuter de la résurrection de Jésus-Christ, de la Bible, de la véracité de ces choses, et je suis arrivé au point où je me suis dit, c'est vrai, je voyais quand même que c'était la vérité. J'étais convaincu, mais je savais que j'étais pas chrétien. C'était bizarre, mais et je peux pas dire quel jour, mais il y a un moment où je traversais cette espèce de barrière. Et quand je regardais en arrière, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Une fois que le Seigneur avait transformé ma vie et je le connaissais, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu avec toutes ces questions? Et ma vie s'est transformée à partir de là. J'ai eu les bas comme tout le monde. Mais ça fait plus que 30 ans. Et voilà, je suis, je pense, plus convaincu aujourd'hui que à ce moment, et on grandit dans le Seigneur. C'est merveilleux de connaître l'Évangile et de savoir que l'avenir est sûr. Malgré tout ce qui arrive, je sais où je vais. Et je sais avec qui je vais, je serai. Et je suis très content de connaître le Seigneur. On va regarder dans la parole, Éphésiens chapitre 4. On va parler de la vie d'Église, c'est ce que Paul aborde dans ce passage. Et j'espère que c'est qu'un rappel, parce que c'est ces choses qu'on devrait faire déjà, n'est-ce pas? Mais c'est un bon rappel pour nous. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, et en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On va juste prier. Seigneur, nous voulons te demander ce matin d'ouvrir nos cœurs pour entendre ta parole. Seigneur, nous te remercions que cette parole est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, que à travers cette parole, tu nous instruis, Seigneur, et que tu nous montres vraiment comment il faut vivre ensemble en tant qu'Église. Aide-nous, Seigneur, je prie pour ton aide. Seigneur, que tu me donnes une facilité, la force, Seigneur, pour ce message, et que, Seigneur, nous puissions être édifiés par ta grâce. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le mot église est souvent mal compris, n'est-ce pas? Il y a un Pakistanais qui est chez nous à ce moment. Je fais les études bibliques avec lui chaque semaine. Et je sais pas s'il est toujours musulman. Honnêtement, je sais pas. Mais je crois qu'il a dit à quelqu'un de l'église ici qui est venu, qui lui a demandé qu'il était chrétien. Mais bon. Mais est-ce qu'il est chrétien? Je ne suis pas du tout sûr. Mais c'est quelqu'un qui était musulman, ça c'est sûr. Mais dès le début, quand il me parlait d'église, ou des églises. Et il semble que dès son enfance, il allait toujours dans ces églises jolies, ces bâtiments. Et il allait dans une église au centre de Rochdale, où on vient. Et franchement, je dis, cette église, c'était un sépulcre. C'est vraiment, hein, c'est un tombeau. C'est mort. Il n'y a pas de vie spirituelle. Mais souvent, les gens, c'est ça dans la tête, n'est-ce pas? Le mot église. Mais dans la Bible, c'est l'assemblée des croyants vivants. Et on a beaucoup de choses. Hein. Paul, il parle dans cet épître de l'Église comme un bâtiment spirituel qui construit des pierres vivantes. Il y a l'idée de la famille, ensemble, la famille des croyants. L'épouse de Christ, qui est un grand mystère, il dit, que nous sommes l'épouse de Christ. Mais surtout, il aime cette illustration du corps de Christ dans cet épître. Hein, ce corps qui est beaucoup de membres unis ensemble et qui est en train fonctionnant, voilà, fonctionne, qui est actif ensemble, qui sert ensemble et qui est en croissance à la maturité de ressembler à Jésus-Christ. Il dit en verset 13, nous avons lu jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la question on va regarder ce matin, c'est comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que nous arrivons à cette maturité et cette ressemblance de Jésus-Christ? Et Paul, il répond dans ce passage. On va voir en trois parties. Le troisième, on va voir si nous avons le temps pour le faire, mais versets 1 à 6, c'est en étant unis ensemble, unis en Christ. Versets 7 à 12, c'est en étant actifs dans le sens de se servir les uns les autres, actifs. Et 13 à 16, c'est par la croissance vers cet objectif de ressembler à Jésus-Christ. Et voilà comment on va aborder ce passage. Mais avant, je veux juste dire deux mots sur où se trouve ce passage dans le livre d'Éphésiens, qui c'est un livre merveilleux, vraiment. Il faut rentrer et lire ça cet après-midi. C'est merveilleux. Mais les premiers trois chapitres parlent de l'Évangile, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et c'est merveilleux, le plan de Dieu, et comment il a, dès l'éternité, il avait ce peuple et comment Jésus-Christ est entré dans le monde pour mourir à la croix, pour réconcilier les hommes à Dieu et pour qu'on puisse avoir cette espérance d'être à lui. Et quand il revient, nous aurons notre héritage. C'est merveilleux. Il commence avec ces trois premiers chapitres. L'Évangile. Parce que on peut pas parler de comment vivre ensemble sans que d'abord il y a ce changement dans le cœur, que vous êtes chrétien, vraiment. L'homme intérieur changé. Sinon, ce passage ne veut rien dire. Et il faut d'abord commencer là. Mais, ce passage est dans la deuxième partie. Mais ça se trouve dans quelle partie? La deuxième partie. Hein? C'est tout en avant. Moi, je pense que si quelqu'un nous demandait d'écrire le livre d'Éphésiens, et on disait, bon, on veut 3 chapitres sur l'Évangile, et après vous parlez de la vie chrétienne et comment on va marcher d'une manière digne de cet Évangile. Je crois que la plupart de nous vont commencer avec le verset 17, où il parle de la vie personnelle avec Dieu, la sainteté personnelle, le marche avec Dieu, où on se dévête, c'est ça? Oui, se dévêtit, merci. Voilà, je vais tourner vers Joël quand j'ai le problème. Quand on se dévêtit de l'ancien, l'homme ancien, et on remet l'homme nouveau. Parce qu'on pense comme ça dans l'Occident, n'est-ce pas? Tout est très individualiste, et c'est ma marche avec Dieu, c'est ma foi à moi personnelle, et voilà. Tout est très important. Mais c'est intéressant que Paul commence avec la vie communale en tant qu'Église. Et quand on lit le livre d'Actes, on voit que la plupart, ça parle des chrétiens ensemble. Et c'est ça qu'on va regarder. Je pense que c'est différent dans notre façon d'être. La Bible ne connaît pas les chrétiens isolés, hein. Les chrétiens qui flottent de groupe en groupe, qui ne sont pas attachés à un corps de Christ local parmi les frères et sœurs. Ces livres dans le Nouveau Testament sont écrits aux églises, hein. C'est les églises locales où on devrait être attaché. Mais premier point, comment est-ce qu'on va arriver à cette maturité, cette ressemblance à Christ en étant unis? Ça, c'est les versets 1 à 6. Et on voit, il répond à 2 questions. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? D'abord, il dit en versets 2 et 3, comment? Et il dit en toute humilité et tout et douceur, le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et c'est là où il commence. Ça commence avec mon attitude intérieure. Comment je me vois devant Dieu et par rapport aux autres croyants. Et dans le livre de Jacques, il dit que c'est l'orgueil qui casse, n'est-ce pas, qui amène la division et des problèmes dans les églises. Mais l'humilité et la douceur. La douceur, c'est le fruit, n'est-ce pas, de l'humilité. Si l'attitude dans mon cœur, eh bien, alors je ne vais pas réagir de manière brusque, dure, impolie, sans amour envers mes frères et sœurs. Quand on réagit de cette façon, on montre qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors cette douceur, c'est le fruit de l'attitude à l'intérieur. Mais il y a un mot là qui est vraiment, je dirais, même difficile à lire parce que il dit en toute humilité et douceur. Et je pense que chacun est capable, des fois, n'est-ce pas, être un peu humble et doux, mais toute humilité, toute situation, avec toute personne, cette humilité et douceur. Mon patron où je travaillais pendant 17 ans avant de devenir évangéliste en France, il était quelqu'un des fois très sympa. Vraiment, il était très riche et très sympa. Il pouvait arriver, voilà, l'entreprise était à lui. Et moi, j'étais un de ses chouchous, ça allait. Et voilà, un homme qui pouvait être très humble et doux. Un autre jour, il peut rentrer et on le traitait comme un chien. Vraiment. Et c'est ça, n'est-ce pas? Un jour, ça va, mais un jour, toute humilité et douceur. Ce n'est pas simplement ce que je suis aujourd'hui, mais hier, demain. Et c'est vraiment un défi, n'est-ce pas, de vivre cette vie. Et c'est ça qui va amener l'unité parmi nous. Mais il continue, n'est-ce pas, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est impossible d'avoir l'unité si moi j'attends que mon frère se comporte envers moi comme il faut. Et c'est souvent, on est comme ça, hein. Si mon frère, il se conduit bien, voilà, ça va aller bien entre nous. Mais combien de fois on entend, mais vous savez pas comment il m'a parlé, hein. Alors, on se justifie de notre attitude. Voilà, on est toujours, moi je supporte pas que les gens me parlent comme ça. On l'entend, hein. On le dit nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est en nous. Mais on doit être ceux qui pardonnent et qui sont tolérants en vrai, envers l'un et l'autre et leur péché. Vous savez, il dit aussi, comment est-ce qu'on va faire cette tolérance, cette patience? Je pense souvent en anglais, je ne sais pas si on dit en français, mais on parle d'avoir les dents serrées. Hein? Alors, on supporte les frères et les sœurs, mais avec les dents serrées. Comme l'injection chez le médecin. On sourire, mais au fond, on dit, oh, ça va faire du mal. Et on n'est pas du tout content, et surtout, on ne l'aime pas. Mais ici, il dit, c'est pas simplement que vous supportez les uns les autres, mais vous faites ça avec amour. Alors là, c'est quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Et il dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je pense qu'on a des fois l'idée du monde. Hein. On pense que s'il y a l'amour, tout va aller spontanément et ça ira sans problème, comme les idées romantiques dans le monde. Tout est spontané s'il y a l'amour. Et la Bible dit, vous efforçant de préserver cette unité, de conserver l'unité de l'esprit. Alors c'est quelque chose où il faut d'efforts pour rester unis ensemble. Ça va pas être facile. Et si je laisse aller, il y aura des problèmes. Hein? C'est quelque chose où on doit décider, on doit s'engager à garder cette unité. Il dit dans le lien de la paix. Et c'est possible d'avoir l'unité des autres façons, n'est-ce pas? L'autorité, ça peut apporter l'unité. Saddam Hussein et tous ces autres dictateurs, ils ont pu garder leur pays uni, n'est-ce pas? Mais on peut pas dire qu'il y avait vraiment la paix. Hein? Chez nous, on a une coalition, on dit oui. Et voilà, c'est l'unité. Pour la première fois, la coalition ensemble, mais vous lisez les journaux, c'est une coalition, mais ce n'est pas la paix, hein, du tout. Et ici, il dit, c'est pas simplement que il y a, pas de conflit, mais qu'il y a la paix ensemble. Alors, c'est beau, n'est-ce pas, ce que nous recherchons. Hein? Ça, c'est l'Église. Moi, je trouve que c'est un vrai privilège d'avoir une telle chose mise devant nous et de vivre cela. Mais après, il nous parle de pourquoi. Et c'est parce que, n'est-ce pas, dans ces versets 4 à 6, c'est parce que l'Évangile fait que nous soyons déjà unis. Alors, on peut pas être dans le... On peut pas avoir un manque d'unité dans l'Église. Parce que déjà en Christ, nous sommes unis. Et c'est trinitaire, hein, la façon que il présente ces choses. Il commence avec l'esprit, des trois choses. Un seul corps, un seul esprit et une seule espérance. Ça, c'est la première idée qu'il donne. Après, il parle du Seigneur. Il dit un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. L'expérience entre nous, c'est le même, n'est-ce pas? Moi, j'ai mon témoignage. Vous avez votre témoignage. Vous avez un Seigneur qui est le même que moi. Vous avez la même foi et vous êtes passé par le même baptême. Comment est-ce qu'on peut être l'un contre l'autre et pas s'aimer quand nous avons cette même expérience? Et il termine avec le Père. Nous avons un seul Dieu et Père de tous. Mon Père est votre Père. Mon Dieu, il est votre Dieu. Il est en moi, mais il est en vous. Hein? Alors, comment on ne peut pas être un ensemble et unis entre frères et sœurs? Et ça, c'est la vision de Paul pour l'Église. Et dans le psaume 133, ils disent, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères demeurer ensemble. Est-ce que vous êtes prêts, je vous demande ce matin, prêts à vous engager vraiment pour que vous conservez cette unité dans cette Église, que vous faites cet effort envers vos frères et vos sœurs, et on parle de tout le monde, hein? Chaque personne que vous connaissez ici, que vous faites cet effort d'être un en Christ. Et qu'on ne permet pas les divisions, les gens avec qui on ne parle pas, ou qu'on évite le matin, parce que c'est pas vraiment quelqu'un avec qui moi je m'entends. Est-ce qu'on cherche vraiment cette unité en Christ? Mais après, il parle en versets 7 à 12 de cette idée d'être active, de travailler ensemble, de se servir ensemble. Mais n'oubliez pas, on a commencé, n'est-ce pas, avec l'humilité, douceur, et l'amour. C'est ça qui vient avant les dons. Et c'est les grâces avant les dons. C'est très important dans la vie chrétienne. Mais ici, il a cette idée de se servir les uns les autres. Un corps qui fonctionne. Chaque membre qui a sa place. Et il dit que le Seigneur Jésus nous a donné les dons chacun. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, le Seigneur, il nous a fourni, n'est-ce pas, pour servir les uns les autres. Et il fait référence ici à le psaume 68, verset 19, quand il dit, c'est pourquoi il est dit, « Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » En psaume 68, il parle de Dieu qui descend, qui gagne la victoire et qui rentre avec le butin. Et ici, Paul parle de distribuer ce butin à l'Église, aux croyants. Et ça, c'est l'idée qu'il a ici. Christ, et c'est Jéhovah dans l'Ancien Testament, et ici, c'est Jésus-Christ. Et on voit souvent, n'est-ce pas, que Jésus est Dieu. C'est pour moi quelque chose écrit tout autour du Nouveau Testament. On peut pas l'éviter. Mais il a donné ses dons. Et il y a deux versets qui arrivent, versets 9 et 10, où il parle de ce fait que Christ est d'abord, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Après, il est monté au plus haut. Et bon, c'est pas pour faire des doctrines bizarres, comme je pense certains cherchent ici. Mais on voit c'est un contraste. Hein, c'est l'évangile. Il veut dire que Christ, il est descendu au plus bas. Et après, il est monté au plus haut. C'est Philippiens, chapitre 2, si vous le connaissez. Et il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Quand Jésus est descendu, hein, il est descendu jusqu'à quel point? C'est l'enfer qu'il a porté à la croix, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est venu jusqu'au point de mourir pour mes péchés. Quand Christ était à la croix, il a pris sur lui la colère de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais personne n'a été plus bas. Il est allé là jusqu'à là pour vous. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un ce matin qui connaît la liberté de savoir que Dieu envoyer son fils et qu'il est mort à la croix pour prendre votre punition, pour vous libérer, pour vous donner la paix avec Dieu. Et après, il dit qu'il est monté et Philippiens 2, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus maintenant est souverain qui règne sur l'univers, celui-là qui a donné sa vie pour moi. Et j'espère que vous pouvez dire la même chose ce matin. La porte est toujours ouverte. Hein. C'est ça qui est merveilleux avec l'Évangile. Vous n'avez pas besoin de rentrer sans connaître le Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui et maintenant on peut tourner vers lui. Mais après, il parle de ses dons. Vous voyez en verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je prends personnellement les premiers deux comme les dons fondationnels, et ce que Paul dit, je pense, en chapitre 2:20 d'Éphésiens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Évangéliste, je prends comme, pas simplement comme moi qui passe pour faire l'évangélisation, mais pour quelqu'un qui fait l'implantation, je pense plutôt des églises. Parce qu'on voit que lui, il va aller fonder les églises en faisant l'évangélisation, et après, ces églises auront besoin des pasteurs et enseignants. C'est un peu comme ça, je vois la liste ici. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas, que il dit, pas qu'il a donné les dons d'apôtre ou les dons de pasteur, mais c'est l'homme même qui est le don. Hein, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. C'est l'homme même qui est le don. Et je pense à un effet, n'est-ce pas, sur comment on réfléchit. Le pasteur n'est pas quelqu'un qui monte le dimanche pour pratiquer son don devant l'église. Il est le don même. Alors, sa vie est donnée, si vous voulez, à l'église, qui change l'attitude complètement, n'est-ce pas, de comment on voit les choses, et aussi de nous qui regardent les anciens d'une église, les pasteurs, comment est-ce qu'on les regarde? Comme un don de Dieu? Ou est-ce que c'est les gens qui vont prendre, voilà, c'est sur eux qui tombent les critiques quand quelque chose va pas. Ils sont là pour être responsables des problèmes. Hein? Mais ici, c'est un don de Dieu. Alors, la façon que j'écoute, la façon que je prie pour cette personne, c'est que je le vois comme quelqu'un que Dieu donne à l'Église. Et je cherche à obéir la parole qui est prêchée à travers ces choses. Et remarquez, le travail du pasteur ici n'est pas d'aller faire l'évangélisation, de faire ceci, de faire cela. Hein? Les premiers dons qu'il mentionne, c'est les dons liés, n'est-ce pas, à l'annonce de la parole. Et il dit après que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour vous équiper que ces gens sont là pour enseigner la parole. Alors, c'est pas le pasteur qui doit aller faire tout le travail, n'est-ce pas? C'est le corps qui travaille. C'est le corps qui fonctionne. Chaque membre, vous-même, qui a une place dans ce corps. Et la parole est là pour perfectionner, pour édifier, pour vous équiper, pour faire l'œuvre. On a eu un problème chez nous à un moment parce que on attendait que c'est les anciens qui rendent visite chez les malades, que c'est les anciens qui rendent visite chez les gens isolés, que c'est les anciens. Mais ce n'est pas les anciens. Hein? Ils doivent le faire aussi, oui, mais c'est le corps de Christ qui doit le faire. Et attention à l'attitude qui arrive souvent chez nous, n'est-ce pas? Et en a ces dons, pourquoi? C'est pour servir les uns les autres, n'est-ce pas? C'est pour autrui, c'est pas pour moi. Je pense souvent quand on parle des dons, j'ai besoin de mettre des lunettes quelque part, mais chaque fois ils tombent. Il faut quelque chose de plat. Non mais... Mais quand on parle des dons, souvent, ça commence à être les discussions charismatiques, pentecôtistes. Mais, et je ne suis pas du tout charismatique, hein. Je vous dis. Mais pour moi, ça sera dommage si on détourne les choses sur ça. Ici, ce qui est plus important, c'est que le don n'est pas pour mon propre expérience. C'est pas pour moi de vivre quelque chose de bien. C'est pour servir mon frère et ma sœur. C'est toute une attitude, n'est-ce pas? Dans la façon que nous abordons cette histoire des dons que Dieu donne. Et si vous regardez en Romains 12, là vous avez une liste des dons qui sont donnés à l'Église. Hospitalité, aider les uns les autres. Il y a toutes sortes de dons que Dieu donne. Et en 1 Corinthiens 12 aussi, cette idée du corps qui fonctionne ensemble. Mais moi je pensais, en Angleterre à ce moment, on a beaucoup de débats sur, à cause du crise, là, on parle sans cesse des allocations. On veut pas donner les allocations aux gens qui vont aller dépenser ça sur la cigarette, l'alcool, et le TV satellite, etc. Et bon, il y a beaucoup de débats parce qu'on dit, mais on peut pas commencer à envahir la vie personnelle des gens. On discute sur ça, mais si c'était les allocations pour les enfants, qu'on donne aussi chez nous, je sais pas si vous l'avez ça chez vous, mais les allocations pour les enfants, je crois que là, tout le monde sera d'accord. Et il faut pas les dépenser les allocations données pour nos enfants sur la cigarette, l'alcool et autre chose. On dirait c'est un crime, c'est quelque chose d'horrible. C'est parce que on reçoit quelque chose pour le bien de l'autre. Et on ne doit pas le dépenser simplement sur nous-mêmes. Et ici, nous avons le Seigneur qui nous donne les choses pour les autres. Et quelle tristesse si nous ne faisons pas ça. Mais nous passons notre temps plutôt dans notre propre vie, en nous amusant, et on est bien heureux, mais je ne pense pas à ce que je fais pour les autres. Et voilà. Et chez nous, on a c'est pour, et là on va terminer, je pense, mais vous pouvez aller lire pour ces derniers versets, de à quoi est-ce que nous vers quoi est-ce que nous allons. On parle de la croissance, unie, fonctionnant bien ensemble, tout va bien, mais c'est pour quelle raison? Des fois en Angleterre, je pense que on est content si l'œuvre d'évangélisation va bien, efficace. On est vraiment, on aime bien être efficace chez nous. Les dames après un repas fraternel sont contents si on arrive à faire la vaisselle et tout, et c'est tout comblé, et on part après 2 heures, c'est bon. Oh, ça c'est vrai, c'était bien aujourd'hui. On a bien terminé le travail. Tout était bien fait, rapidement, efficacement. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? On n'est pas là pour être une machine qui tourne à merveille. On est là pour venir comme Jésus-Christ, ensemble. Croissance spirituelle. C'est vers ça que nous allons. Au verset 15, il nous dit, c'est le troisième point, hein, comment est-ce qu'on va arriver avec une croissance vers un objectif? Si on ne garde pas cet objectif de ressembler à Jésus-Christ en tant qu'Église, on peut se dévier facilement, n'est-ce pas? Dans toutes sortes de choses, l'œuvre sociale, choses qui tournent à merveille, voilà, l'argent qui rentre et qui part, voilà, on fait tout bien, mais si on ne grandit pas spirituellement, si on ne ressemble pas à Jésus, on a tout perdu, n'est-ce pas? Verset 15, il nous parle de être ceux qui tiennent la vérité. Ils disent, mais en professant la vérité, mais je pense que la meilleure traduction, c'est en tenant la vérité. Le mot là peut dire plusieurs choses, mais en tenant la vérité dans l'amour. Deux choses ensemble, n'est-ce pas? Si c'est la vérité sans l'amour, on est dur, on casse. C'est quelque chose qui n'est pas joli, n'est-ce pas? Mais si c'est l'amour sans la vérité, ça séduit dans l'erreur et ça tue les gens. Hein, c'est la mort spirituelle, l'amour sans la vérité. Mais deux ensemble, et on croit en Jésus-Christ et on va vers cette maturité. Verset 14, il parle de cette maturité doctrinale où on n'est pas ballotté par toute doctrine. Il parle des hommes, par les enfants. Vous savez, quand un enfant veut faire quelque chose, pour détourner ses pensées, on lui donne quelque chose de joli, de nouveau, voilà, il peut jouer avec ça, il va oublier l'autre chose. Et des fois, en tant qu'adulte, on est comme ça, hein. Une nouvelle doctrine arrive, wow, c'est bien, vous avez entendu ce prédicateur, et vous avez lu ce livre, et on est comme les enfants, voilà, tout d'un coup, je suis là-bas. Et ici, ils disent la maturité. Un homme, il réfléchit. Et il pense bien à ce qu'il fait. Et allons vers cette croissance spirituelle. Et il n'a pas mentionné dans le passage la croissance numérique. C'est pas parce que ce n'est pas important. Hein? Nous savons que Paul était un évangéliste qui voulait que l'Église croisse en nombre. Mais ce n'est pas ça le plus important. Hein? Le plus important, c'est une croissance spirituelle. Ressembler à Jésus-Christ. Et là, les gens vont entrer chez nous et ils vont regarder et ils vont sentir qu'ils ont été dans la présence de Jésus-Christ. Parce que votre façon d'être est comme Jésus était. Votre façon de se comporter les uns envers les autres et de se servir, c'est comme Jésus faisait. Là, Jésus a dit, quand ils vous voient ensemble, vous aimez les uns les autres, c'est là où ils vont voir la vérité. Alors, en conclusion, verset 16, je pense, c'est une conclusion à ce passage. Hein, il le redit dans ce sens. C'est de lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, vous avez une part dans cette église, n'est-ce pas? Vous avez une place. Le corps ne peut pas fonctionner comme il faut s'il y a les membres qui manquent de ce corps. Et l'idée qu'on doit avoir dans nos pensées, c'est cette corps ensemble où on appartient. On sert les autres dans cette église. Je ne vais pas simplement pour écouter et rentrer chez moi sans réfléchir après à ce que fait l'église pendant la semaine. Non, je fais partie. Et on grandit ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Que cette œuvre d'évangélisation soit le fruit de cette unité, n'est-ce pas, pendant cette semaine.